Centre-ville PM.
Ben bonjour tout le monde. Bon mercredi. On va y aller tout de suite avec cette recherche qui est faite par des gens de chez nous, par des chercheurs de l'Université de Montréal et de Sainte-Justine aussi, qui confirment que la consommation de cannabis affecte les fonctions cognitives et même les résultats scolaires de nos jeunes. On s'en va rejoindre Jean-François G. Morin, qui est étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, co-auteur de l'étude. Bonjour, M. Morin.
Bonjour.
Alors, écoutez, les gens qui nous écoutent vont se dire, ben oui, mais on le savait, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous avez découvert?
Effectivement, on était bien au courant que les effets du cannabis sur le cerveau n'étaient pas positifs. En tout cas, on sait que chez les adultes, ceux qui consomment beaucoup de cannabis ont tendance à avoir des difficultés au niveau de leur capacité de raisonnement, leur capacité de mémoire, leur capacité d'attention. Ce qu'on ne savait pas encore tout à fait, c'est à quel point est-ce que les jeunes consommateurs souffrent de ces effets-là, eux aussi. Alors, nous, ce que notre recherche a été capable de faire, c'est d'établir que oui, les jeunes présentaient des atteintes au niveau cognitif quand ils prenaient du cannabis et que ces atteintes-là, elles se présentaient chez tous les consommateurs, que ce soit des consommateurs très occasionnels ou des consommateurs plus intenses de cannabis à l'adolescent.
Alors, juste pour être bien clair, parce qu'il peut y avoir quelques sceptiques dans la salle, oui. Votre échantillonnage est très, très large. On parle de presque 4000 adolescents sur une période de 4 ans. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez évalué les capacités cognitives, mettons, en secondaire 1, et là, vous les avez réévaluées en secondaire 2, en secondaire 3 et en secondaire 4 en fonction de la consommation des jeunes?
Exactement. Alors, dans le fond, à chaque année, dans les écoles secondaires qui participaient à notre étude, puis ça, je dois admettre que c'est plusieurs écoles secondaires partout à travers la région du Grand Montréal qui se sont joints à notre effort, on se déplaçait dans les écoles, puis on faisait passer une variété de questionnaires pour voir un peu comment chacun des jeunes qu'on rencontrait se situait au niveau de la consommation de cannabis, de la consommation d'alcool aussi, puis on leur faisait passer aussi des casse-têtes pour évaluer le fonctionnement de leur cerveau. Et on faisait ça à chaque année, puis on était à même de voir si, pour une année donnée, une augmentation de la consommation de cannabis avait des effets qui se reflétaient dans leur capacité à résoudre des puzzles dans l'année en cours, mais aussi pour les années subséquentes.
OK. Comment vous faisiez pour distinguer l'effet de l'alcool de l'effet du cannabis?
Ben dans le fond, c'est dans les analyses statistiques qu'on utilise, on utilise des logiciels puis des analyses qui sont assez sophistiquées. On est capable de départager la contribution d'une substance sur le résultat qu'on observe en contrebalançant pour l'autre substance. Puis nous, ce qu'on a trouvé, c'est que le cannabis en lui seul est responsable pour quand même une bonne portion des effets qu'on a observés, indépendamment de la consommation d'alcool. Alors, il y a vraiment quelque chose de spécifique dans la consommation de cannabis des adolescents qui peut entraîner des effets délétères sur le développement de la cognition.
Alors, parlez-nous très concrètement. Là, l'effet que vous avez noté, c'est quoi?
Oui. Alors, dans le fond, ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui prennent du cannabis à l'adolescence, ils vont avoir des difficultés au plan de la mémoire de travail, donc la capacité de manipuler de l'information dans leur cerveau. C'est une habilité qui est essentielle pour du calcul mental, calculer le pourboire au restaurant, des choses de ce genre-là. Mm-hmm. Et une autre habilité sur laquelle les jeunes qui fumaient du cannabis semblaient être moins performants que leurs pairs non consommateurs, c'est sur des habilités d'inhibition comportementale. Ça, c'est la capacité de retenir des comportements qui ne sont pas pertinents pour la tâche en cours. Alors, disons que je suis en train de suivre un examen de français et que je regarde par la fenêtre. L'inhibition comportementale, c'est la faculté de mon cerveau de m'empêcher de regarder par la fenêtre puis de retourner les yeux sur ma copie.
Alors, on dirait la capacité de concentration, M. Morin, non?
On pourrait dire la capacité de concentration, mais ça englobe plus que la concentration. C'est vraiment la capacité de supprimer des comportements qui ne sont pas pertinents pour une tâche. Ça peut être... c'est souvent lié à de l'impulsivité. Ou en tout cas une baisse ou une capacité de contrôler ses pulsions.
OK. Puis, excusez-moi, là, mais vous nous avez dit que vous avez évalué les jeunes à partir de puzzles, à partir de casse-tête. Comment, à partir d'un casse-tête, pouvez-vous conclure que la personne est moins capable de supprimer ses comportements impulsifs? Ou comment pouvez-vous, à partir d'un casse-tête, évaluer que la mémoire de travail est affectée?
Oui. Alors, dans le fond, les épreuves qu'on passe, je dis que ça ressemble à des casse-têtes. C'est des casse-têtes qui sont tous un petit peu différents puis qui sont vraiment conçus pour capturer certaines de ces habiletés-là. Alors, si je vous parle du casse-tête qu'on utilise pour la mémoire de travail, on utilise un casse-tête dans lequel il y a des images. Et là, les jeunes doivent... C'est un peu comme les jeux de cartes de mémoire. Alors, ils doivent tourner les cartes, mm-hmm. puis associer les images qui sont ensemble. Puis bon, s'ils font une erreur, les cartes sont retournées face contre terre. Et le but de ce casse-tête-là, dans le fond, c'est d'associer les paires de cartes sans retourner trop de fois la même carte sans pouvoir la pairer.
Je comprends. Alors, c'est comme un jeu de mémoire avec lequel on joue avec les enfants quand ils sont tout jeunes, là, quand on essaie de développer leur capacité cognitive, justement. Là.
Tout à fait. Alors, mm-hmm. C'est un peu sur ces casse-têtes-là qu'on a évalué les jeunes.
OK. Puis là, Monsieur Morin, là, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Vous dites là des jeunes de 13, 14, 15 ans, mm-hmm. OK, secondaire 1 à secondaire 4, qui fument du pot, rapidement, vous l'évaluez, d'année en année, ils ont moins de capacité de mémoire, moins de capacité de concentration, moins de capacité de raisonnement parce qu'ils fument du pot. C'est ça que vous dites là.
Effectivement, c'est un peu dans ce sens-là que vont les résultats. Alors, on a contrôlé pour d'autres hypothèses alternatives. Donc, il y a un gros pan de la littérature qui s'intéresse à, qui dans le fond stipule que les jeunes qui vont avoir une consommation élevée de cannabis ont déjà des difficultés au plan cognitif. C'est effectivement une hypothèse qu'on est capable de valider dans nos données, mais en plus de ça, la consommation en elle-même va venir accentuer ou en tout cas générer de ces effets-là. Certes, ce sont des effets de petite taille. C'est pas une différence dramatique sur la performance cognitive, mais j'aime quand même dire qu'il n'y a pas de risque zéro en ce qui s'agit de la consommation de cannabis sur le développement du cerveau.
OK. Alors, logiquement, puis vous ne faites pas de politique, M. Morin, mais logiquement, une conclusion comme celle-là devrait vous amener à être plutôt rébarbatif, on va dire, à la décision de légaliser le pot à l'âge de 18 ans?
Ce qu'on sait des données de recherche sur le développement du cerveau, c'est que le cerveau continue de se développer à partir de 18 ans, puis il atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Bien entendu, à partir de 18 ans, le cerveau est considérablement moins vulnérable aux effets de la consommation qu'il ne l'est à l'âge de 12-13 ans. Mais effectivement, si on peut retarder le plus que possible l'âge de la première consommation, souvent c'est associé à des bienfaits au niveau de la santé mentale, puis surtout de la neurocognition. Bien entendu, moi, je laisse la balle dans le camp du législateur en ce qui s'agit de l'âge légal. Oui. Mais d'un point de vue santé publique, c'est avantageux de faire circuler cette information-là que plus on peut retarder la consommation de cannabis, moins elle est risquée pour la santé du cerveau.
OK. Puis, encore une fois, là, je trouve ça tellement sérieux ce que vous nous dites. Au-delà de tout ce que vous nous avez déjà dit sur la mémoire, sur la concentration, la performance, vous avez noté aussi que les résultats scolaires de ces jeunes-là qui consommaient le cannabis étaient affectés par la consommation du cannabis?
Ce n'est pas une hypothèse qu'on a pu directement tester. Ça, on va être très intéressé de le faire quand on va avoir accès aux résultats scolaires des étudiants qui participent à notre étude. Dans le fond, on essaie, dans la mesure du possible, d'avoir accès à leurs résultats aux épreuves ministérielles pour voir un peu comment ces résultats neurocognitifs qu'on observe se répercutent sur des tâches très standardisées comme les examens du ministère. Mais ces habiletés-là ont déjà été abondamment corrélées avec la performance scolaire. Alors,
parlez-moi français, s'il vous plaît, M. Morin. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de dire que ça a été abondamment démontré que la consommation de cannabis et ou d'alcool avait un impact sur les résultats scolaires?
La consommation d'alcool sur la performance scolaire, certes. La consommation de cannabis, c'est encore à déterminer. Il y a certains éléments de preuve qui suggèrent que oui, notre étude ne fait pas partie de ces études-là qui valident directement. Mais
logiquement, c'est là que ça nous mène. Si tu as moins de mémoire, si ta capacité de concentration est affectée, ta capacité de raisonnement est affectée, il serait étonnant que tes résultats scolaires montent, mettons.
Oui, je partage votre hypothèse. Effectivement, il y a quelque chose de très logique dans, okay. Dans cette hypothèse-là. Bon. Par exemple, comme chercheur, nous, on se doit de répondre aux standards de la science. Oui. Puis pour ça, il va falloir le prouver. Puis on a bien hâte de le faire dans notre prochaine étude.
Là, il y a quelqu'un qui me demande, de Manon, qui demande, est-ce que les effets sont irréversibles? C'est une bonne question, ça.
Mm-hmm. Alors, on sait qu'il y a une part des effets qu'on a mesurés qui sont transitoires. Donc, oui, qui sont réversibles dans le temps.
Ils sont réversibles. Ils sont réversibles.
Oui, certains. Je pense entre autres à la mémoire pure, la mémoire de rappel, puis certains éléments au niveau du raisonnement perceptuel.
Donc, si tu arrêtes de consommer du pot, tu vas récupérer ce que tu avais perdu.
En partie. Puis, il y a d'autres domaines, comme la mémoire de travail, puis l'inhibition comportementale, donc le contrôle des pulsions, qui, eux, sont plus tardifs à récupérer. Ça peut prendre au-delà d'une année, en tout cas selon les données qu'on a à l'instant sous la main.
Là, il y a quelqu'un qui me dit, on est en train de parler de jeunes de 13 à 17 ans qui consomment du cannabis. Mm-hmm. En quoi la légalisation à partir de 18 ans change quelque chose? Évidemment, votre étude, elle s'arrête à secondaire 4, mais on peut penser, corrigez-moi si je me trompe, mais on peut penser que si ça a un impact négatif à 13, 14, 15 et 16 ans, puis 17 ans, ben, les probabilités sont quand même assez grandes que ça ait un impact négatif à 18, pas à 19, pas à 20 ans. 30 est aussi longtemps, dans le fond, que le cerveau se développe. Est-ce que j'ai tort?
Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, je partage votre hypothèse. Effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous, dans notre équipe de recherche. Bien entendu, il faut que ça passe le test empirique. Alors, on va être bien intéressés de continuer de suivre ces jeunes-là. On est en train de les suivre pour leur secondaire 5. Ouais. On va être intéressés à les suivre quand ils vont passer vers le cégep, puis peut-être aussi tard que l'université. Puis ça va nous permettre d'établir, hors de tout doute raisonnable, ce qu'on soupçonne au niveau du développement du cerveau puis de la consommation.
Là, on va lancer les lignes. M. Morin, restez avec nous juste 10 secondes. Là, 790-9850, Drainville à commercial 985FM.ca ou encore par texto 98985. Comment vous réagissez à ça, en particulier les parents ou même les jeunes peut-être qui nous écoutaient, qui entendaient cela? Est-ce que ça peut vous amener, par exemple, à remettre en question votre consommation ou à la diminuer? Chez les parents, est-ce que vous vous dites « ouais, j'ai peut-être pas suffisamment travaillé au corps mon jeune, je sais qu'il consomme, mais là, j'ai vraiment une étude qui démontre noir sur blanc que ça a un impact sur ses capacités cognitives, sa capacité d'apprendre, sa capacité à résoudre des problèmes. Est-ce que ça change votre attitude? » Et là, on va parler avec le député Simon Jolin-Barrette de la CAQ dans un instant, là, il doit nous appeler. L'autre question que je vous pose, c'est, la CAQ, ils ont dit, si vous nous mettez au gouvernement, on va augmenter l'âge légal de 18 à 21 ans. Quand vous entendez une étude, les résultats d'une étude comme celle-là, est-ce que vous souhaitez que la CAQ embraye puis augmente l'âge légal le plus rapidement possible jusqu'à 21 ans? Restez avec nous, M. Morin, on va prendre quelques appels. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous écoute.
Oui, d'accord. Ben moi, c'est simplement pour dire que j'ai commencé à consommer à 16 ans. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, j'ai consommé pratiquement tous les jours dans ma vie. Je viens de terminer un cours en réfrigération, mm-hmm. Auquel j'ai consommé régulièrement. Puis honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose dans mon cas personnel.
Restez là, Mathieu. Je suis curieux d'avoir la réaction de M. Morin. Allez-y donc, M. Morin.
Oui. Bien, dans le fond, ce que notre étude constate, c'est que dépendamment de l'âge de la première consommation, les effets risquent d'être modulés en fonction de ça. Alors, plus les consommateurs consomment jeunes et longtemps, plus les effets vont être intenses. Si la consommation, elle arrive plus tard dans la vie, effectivement, c'est possible d'avoir des effets qui sont beaucoup moindres. Alors, l'étude, faut comprendre que c'est une étude qu'on a menée auprès de plusieurs personnes. Mm-hmm. Puis les effets qu'on constate, c'est des effets en moyenne. Alors, bien entendu, votre cas spécifique, ça se peut que vous ayez très peu d'effets au niveau de votre performance cognitive. Puis c'est possible que d'autres personnes qui soient dans une situation analogue à la vôtre, eux, en aient beaucoup, beaucoup. Puisque notre étude, elle fait, c'est qu'elle calcule le niveau moyen d'atteinte à l'échelle de toute une population.
C'est très clair, oui. M. Morin. Vous alliez dire, vous êtes très heureux
Oui, je suis bien heureux d'entendre que monsieur au bout de la ligne, lui, souffre très peu de sa consommation. Oui. Alors, je lui souhaite le meilleur.
Très bien. Merci beaucoup, Mathieu, pour l'appel. Alors, on m'a dit que Simon Jolin-Barrette est maintenant en ligne. Bonjour, monsieur le député.
M. Drainville.
Là, moi, je veux comprendre. Vous vous êtes engagé à augmenter l'âge légal de 18 à 21 ans. L'âge légal va passer à 18 ans le 17 octobre prochain. C'est à peu près la date où le nouveau Conseil des ministres va être assermenté. OK, on parle de la mi-octobre. Fait que là, je veux juste comprendre, M. Jeanlin Barrette, est-ce que le Conseil des ministres va se réunir d'urgence une fois qu'il aura été assermenté pour geler la date puis la porter à 21 ans, ou est-ce qu'il va falloir passer par le dépôt d'un projet de loi, ce qui implique, bien entendu, plusieurs mois avant que la date, avant que l'âge passe de 18 à 21 ans?
En fait, M. Drainville, on va regarder toutes les options disponibles. On va regarder ça avec les fonctionnaires. C'est possible, effectivement, qu'on doive légiférer, ça veut dire déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour passer l'âge de 18 à 21 ans au niveau de la légalisation de la vente et de l'achat pour les personnes mineures qui veulent en acheter. On se retrouve dans une situation où, durant des mois, j'ai expliqué à la ministre Charlebois l'importance de repousser l'âge pour la consommation légale de cannabis parce que les dommages associés à cette consommation-là, lorsque c'est précoce, oui, ça fait des ravages. Et vous savez, la position de la CAQ n'a jamais changé. Ça faisait partie de nos engagements électoraux. On l'a réitéré.
M. Jeanlin Barrette, je veux pas qu'on refasse les entrevues qu'on a déjà faites. C'est clair, vous avez été élu là-dessus. Je veux juste savoir comment vous allez opérer le changement maintenant.
Bien, fort probablement que nous devrons déposer un projet de loi, mais comme je vous dis, on va consulter les spécialistes au niveau de la santé publique et du ministère de la Justice, à savoir est-ce que c'est possible de le faire plus rapidement, mais très certainement, on agira le plus rapidement possible pour mettre en œuvre cette position-là qui a été appuyée par les Québécois dans le cadre de la présente campagne électorale,
okay,
et c'est-à-dire d'interdire la consommation dans les lieux publics et de fixer l'âge à 21 ans.
Donc ça veut dire que dans les prochains mois, là, à un moment donné, vous allez déposer un projet de loi, idéalement avant Noël. C'est le ministre ou la ministre responsable, on peut penser que ce sera justice ou peut-être responsable de l'enfance, là. On verra bien qui sera responsable du dossier. Mais bref, quelqu'un du gouvernement dépose un projet de loi. On s'en va en commission parlementaire. Le projet de loi est finalement adopté. Et parce que vous êtes majoritaire, et donc, quand le projet de loi va être adopté, vous allez donner la directive aux sociétés québécoises du cannabis de contrôler l'identité des consommateurs, puis plutôt que de leur demander de prouver qu'ils ont 18 ans, vous allez leur demander de prouver qu'ils ont 21 ans pour pouvoir acheter du pot dans les sociétés québécoises du cannabis.
Actuellement, c'est déjà prévu dans le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement libéral à l'effet que les gens doivent démontrer qu'ils ont l'âge légal en vertu de la loi, du projet de loi 157 pour l'acheter, et ça ne changera pas. Simplement le fait que pour pouvoir acheter du cannabis, désormais, ça sera 21 ans au lieu de 18 ans, dans un souci de santé publique, dans un souci de s'assurer que les jeunes ne subissent pas les conséquences de la consommation précoce de cannabis. Toutes les études le démontrent. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie hier de Sainte-Justine qui démontre les dommages et les ravages que ça peut causer une consommation précoce de cannabis. Et je pense qu'on a la responsabilité d'encadrer cette consommation-là, surtout que la position de la CAQ a toujours été claire à ce sujet-là.
Vous avez raison. Ça a toujours été clair. Simon Jeanlin Barrette, député de Bordua et fort probablement futur ministre d'un gouvernement de la CAQ. Merci, M. Jeanlin Barrette.
Merci à vous, M. Drainville. Bonne journée.
Bonne journée. Alors, beaucoup de textos. Bonjour, au secondaire, je me tenais avec des fumeux de potes. J'ai arrêté. Eux ont continué. J'ai une super carrière, une super famille. Eux sont dans leurs 2,5 avec une job-in dans une épicerie. Est-ce que c'est une coïncidence? Ouais, là, je ferai attention, par exemple, parce que, tu sais, moi, je connais aussi des gens qui ont fumé du pot au secondaire puis qui ont des super familles et des super jobs. Donc, gardons-nous de trop généraliser. Hein? Même si, M. Morin, vous êtes toujours là. M. Morin, vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là.
Vous avez entendu ce que je viens de dire? Il faut faire attention. Vous découvrez, vous prouvez en fait que il y a un impact sur les capacités d'apprentissage neurocognitif, blablabla. Vous dites, on va maintenant passer à la prochaine étape, essayer de démontrer qu'il y a une baisse du rendement scolaire à partir des résultats des examens du ministère, mais ça ne veut pas dire que les gens qui consomment du pot au secondaire vont tous finir dans dèche, là.
Mm-hmm. Effectivement. Alors, dans le fond, c'est tentant de suivre la trajectoire de ce côté-là, mais il faut résister à cette généralisation-là parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent affecter les circonstances de notre vie puis la direction que notre vie prend. On sait que peut-être que le cannabis peut jouer sur les habiletés très fondamentales du cerveau, mais pour en arriver à des portraits comme ceux qui sont décrits dans le texto, il y a d'autres facteurs qui sont impliqués. Ça dépasse un peu les limites de l'étude que je vous présente.
On s'entend là-dessus. Jean-François G. Morin, donc étudiant au doctorat à l'Université de Montréal et co-auteur de cette étude. Merci, M. Morin.
Merci à vous.
Alors, je ne vous cacherai pas, j'ai beaucoup de textos de gens qui disent « Hey, calme-toi, là, j'ai toujours consommé du pot, je fume 3-4 joints par jour depuis plus de 15 ans, j'ai 35 ans, un diplôme en électromécanique, soudure, je gagne très bien ma vie, aucune conséquence, cette étude-là est bidon. » Par contre, j'ai une enseignante qui dit, elle enseigne au secondaire, elle dit « Je vous confirme que ce qui est dans l'étude est vrai. » Donc, visiblement, elle l'observe chez ses étudiants. « Je suis infirmière, me dit une autre auditrice, je peux vous garantir, la consommation de drogue a un effet sur la vie des personnes. Nous n'avons jamais vu des ingénieurs, médecins, personnes avec des emplois haut placés, ayant fait des études et ayant consommé tout le long des études. » Ça, j'en doute, si vous me permettez. Finalement, un dernier texto. « Bonjour. Personnellement, cette étude démontre non seulement l'effet, mais aussi que la première consommation date d'avant l'âge légal de 18 ans, etc., etc. » Oui, ben, il l'a bien dit, le chercheur, il a dit « Plus tu consommes tôt, plus l'impact est important. » OK, on s'arrête parce qu'au retour, je veux vous parler de cette décision donc de procéder à l'abattage de 3000 cerfs rouges atteints potentiellement, attention là, potentiellement atteints, c'est pour ça qu'on les abat, de ce prion qui détruit le cerveau et qui est transmissible à l'humain. On fait le point après la pause.